Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le lundi 30 mai, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant par téléphone avec Cynthiana pour l'Embuscaf et la dernière ligne droite du financement participatif qu'elle a lancé. L'Embuscaf, c'est quoi? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancienne zone, l'ancien Proust Coiffeur Forum, place de la mairie à Florac, qui ouvre enfin ses portes. Ça va revivre place de la mairie cet été et c'est une excellente nouvelle. On en parle avec elle dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, on part au Blémard où il y a eu un tout petit truc, mais alors un tout petit truc ce week-end. On écoutera un petit reportage en deuxième partie d'émission. Alors ce sera la première partie parce qu'on a légèrement pris 4 heures de son. Voilà, la boulette à pas faire quand on veut faire des reportages, hein. Prendre trop de son. Mais que voulez-vous ? Il y avait une ambiance extraordinaire, des gens intéressants et vraiment un excellent festival. Le festival Dolt, c'était la 18e édition. Il y aura de la musique, comme d'hab aujourd'hui, Maria Andrade et on commence évidemment par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. La pandémie a permis aux publicitaires du numérique de mettre la main sur les données personnelles de dizaines de millions d'enfants du monde entier. C'est ce que révèle un rapport rendu public la semaine dernière, mercredi, par Human Rights Watch. Durant près de 2 ans, l'ONG a analysé 165 outils numériques de l'EdTech, terme qui désigne le secteur des technologies éducatives, officiellement recommandé par les gouvernements de 49 pays, dont la France. Et ses conclusions sont désastreuses pour la protection de la vie privée des enfants. Dépôt dans leurs appareils de cookies permettant d'espionner leur activité en ligne, suivi de leur géolocalisation, attribution d'un identifiant publicitaire facilitant leur pistage, etc. L'immense majorité des solutions numériques qui ont été développées directement par les États ou confiées à des entreprises privées ont contribué à une surveillance publicitaire rendue obligatoire par le confinement et la fermeture des écoles. L'un des premiers objectifs des entreprises du secteur des technologies publicitaires, c'est de pouvoir identifier le plus précisément possible les internautes afin de pouvoir les suivre lors de leurs utilisations. Pour savoir qui sont les gens sur Internet, explique le rapport, les sociétés de technologie publicitaire, à tech, étiquetent chaque personne avec une suite de chiffres et de lettres qui agissent comme un numéro identifiant qui est persistant et unique. Il renvoie à un seul enfant ou à ses appareils et il ne change pas. Ainsi, à chaque fois qu'un enfant se connecte à Internet et entre en contact avec une technologie de pistage, chaque information collectée sur cet enfant, où il vit, qui sont ses amis, quel type d'appareil sa famille peut se permettre de lui offrir, est reliée à l'identifiant associé à lui par une société de la tech aboutissant au fil du temps à un profil complet. Les données liées de cette manière n'ont pas besoin d'un vrai nom pour être capable de cibler un vrai enfant ou une personne, c'est ce que souligne le rapport. La vraie question à se poser maintenant, c'est quelles vont être les suites données à ce rapport, que vont faire les États ? On savait que l'intrusion, l'espionnage et le hameçonnage étaient de mise depuis longtemps dans le numérique. Y aura-t-il une vraie réponse ? Affaire à suivre. Allez, on parle avec Cynthiana dans un instant de l'Embuscaf qui ouvre bientôt ses portes. On écoute d'abord Maria Andrade à Feto. Ouh.
Oh,
Maria Andrade a fait toi un extrait. Et si tout va bien, je suis avec Cynthia par téléphone. Bonjour.
Salut.
Ah, tu m'entends bien?
Je t'entends super bien.
C'est parfait. Nous aussi, l'Embuscaf, place de la mairie à Florac, va ouvrir. C'est prévu pour quand, Cynthia?
Si tout se passe bien, mi-juillet. Je devrais avoir les clés du local le 20 juin et le temps d'installer tout ce qu'il y a à faire dedans. Mi-juillet, on devrait être prêt à se prendre la vague.
Alors, bah, voilà. On va commencer par le début. Hein. L'Embuscaf, c'est l'ancien Proust coiffeur pour hommes, l'ancienne zone, comme on l'appelait. Ah, c'est un beau challenge hein, de reprendre, je dirais, une institution pour beaucoup de monde à Florac. Et comment est-ce que ça a commencé, tout ça?
Comment ça a commencé? Moi, ça faisait 2 ans que je cherchais un local pour faire ce projet. Mmh. Après avoir longtemps cherché qu'est-ce que j'avais envie de faire qui puisse aller à la croisée de tout ce que j'aime, donc la lecture, faire à manger, la politique, faire la fête, essayer de combiner tout ça à la fois. Et puis c'est trouvé que la mairie de Florac a fait cet appel à projet. J'avoue que, comme tu dis, c'est un sacré challenge et puis c'est une grosse pression aussi. Mmh. Après voilà, je sais que ça sera pas la zone, ça sera autre chose. Ça sera pas chez Proust plutôt, parce que la zone, je crois que c'était le petit surnom que Fred en tout cas n'appréciait pas. Et voilà, mais j'espère bien rentrer dans la digne lignée. Puisque avant, chez Proust, c'était déjà un bar hyper populaire et accueillant. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que ça leur avait beaucoup apporté dans leur vie et beaucoup soutenu. Que c'était un lieu chaleureux et solidaire déjà. Et donc, j'espère bien rester dans cette lignée-là, quoi.
Mmh. Donc, tu proposeras pas qu'un seul bar. Hein. Ce sera aussi une espèce de snack, c'est ça?
Ouais, il va y avoir de la restauration rapide. Des trucs relativement simples, des frites, ça devient plus très simple à faire les frites aujourd'hui, mais on va trouver. Il y a peut-être une filière locale de gras de bœuf qui se dessine, donc ça c'est plutôt cool.
Ça c'est une bonne nouvelle, ouais.
Et puis voilà, des tartes, des salades, des tapas, des planches apéro évidemment. Et puis après le coin lecture, quoi, surtout qui est important et qui est ni une librairie, ni une bibliothèque, mais j'espère bien pouvoir être en partenariat avec les deux structures de la Berlu et de la bibliothèque, que ce soit pour faire venir des auteurs, organiser des fois des arpentages de livres. Je sais pas si tu sais ce que c'est.
Vas-y, explique-nous.
Un arpentage, c'est à la base, alors je vais pas dire de grosses conneries, mais normalement c'est une tradition ouvrière, c'est-à-dire de quand elle date exactement, je crois qu'elle a bien un siècle, où les ouvriers justement qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un bouquin, l'achetaient à plusieurs, ils déchiraient les pages, ils se refilaient les chapitres et ils le lisaient collectivement, chacun lisait un chapitre et faisait un retour à l'ensemble en fait. Et c'était une manière de lire collectivement des ouvrages peut-être un peu complexes de philosophie ou d'économie politique. Donc moi je compte pas déchirer mes bouquins, hein, mais dans l'idée en tout cas de se répartir la lecture comme ça, puis de redonner un peu confiance aux gens, leur capacité à lire des trucs qu'ils estiment des fois pas accessibles ou qu'ils n'ont pas le temps. Là ça peut être l'occasion de le faire collectivement en buvant un coup et passer un moment sympa. Parce qu'on a trop besoin de s'informer, on a trop besoin d'avancer ensemble dans le monde dans lequel on vit. Là, il faut savoir de quoi on parle et il faut se donner les armes intellectuelles pour pas se faire bouffer, quoi.
C'est sûr. Arpentage de livres, on aura appris quelque chose aujourd'hui. D'où est venue l'idée de l'appeler l'Embuscaf?
De quoi? Ah, l'idée? Le café de l'Embuscade, hein. Tout simplement. Ça va pas plus loin.
Le visuel est bien foutu, qui l'a fait?
Et c'est moi.
Ouais, bravo.
J'en ai fait un peu trop, donc j'ai fait voter les gens, ça y est, on est tombé d'accord sur un visuel parmi les 12 que j'avais fait à la base.
Alors, tu as lancé une campagne de financement, tu as choisi la plateforme Zest, et à une petite semaine de l'échéance, tu es à 85%, c'est cool déjà, mais concrètement, à quoi vont servir les fonds que tu vas récolter?
Alors, bah, je suis contente qu'on en parle pour une raison bien précise, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont exprimé une incompréhension sur le fait que je fasse un financement participatif alors que j'ai été une structure privée. Mmh. Bon, je vais essayer de d'abord répondre à ta question et après, si tu veux bien, on reparle de ça parce que ça me,
oui.
ça me travaille. Du coup, les fonds, bah, ils vont servir... Ils vont servir à compléter ceux que moi j'ai pu glaner de mon côté. Ça va servir à financer la tireuse, parce que je vais avoir une tireuse Cibec un peu classe pour vous offrir le plus vaste choix de bières lausériennes possible. Après, ça va m'aider à financer la bibliothèque aussi, qui est construite par Sten. Qui fait partie du collectif La Pompe et qui est menuisier ébéniste, donc il va me faire une bibliothèque en arche un peu aussi classe que la tireuse, on va dire. Mmh. Ça permet aussi de financer le travail d'une artisane ardéchoise qui me fait des plateaux en bois d'arbre, en bois plein, qui était pas simple à trouver du tout parce que la plupart des gens fonctionnent avec du bois frais ou du bois recomposé. C'est les tonneaux qu'on voit partout avec les plaques en placo là. Mmh. Donc je me suis mis un petit défi avec ces plateaux parce que va falloir que j'en prenne grand soin pour qu'ils puissent durer dans le temps, mais ils sont magnifiques. Et puis ça va m'aider à financer le fonds documentaire aussi, donc abonner le bar au Canard Enchaîné, à des revues comme Politis, comme Silence, comme Nature et Progrès, comme la revue dessinée, enfin j'en passe, mais j'en ai pour une petite somme, et puis bah, étoffer un peu le fonds documentaire, quoi. Mm-hmm. Pouvoir monter un infokiosque, donc un infokiosque c'est des brochures à prix libre sur des thèmes extrêmement variés que les gens peuvent prendre, c'est vraiment un outil d'éducation populaire de base, ça demande un peu de photocopie et de temps, mais voilà, et puis après il y a toutes les dépenses annexe auquel j'avais pas forcément pensé à la base parce que j'essayais de penser à tout mais c'est pas facile.
Ah, quand on est dans un projet comme ça et quand on a la tête dans le guidon, c'est difficile de prendre
puis,
de la hauteur.
Surtout que je passe pas par par l'os boisson, par un distributeur qui normalement du coup s'occuperait de la terrasse, la tireuse, le store. Donc je dois gérer ça moi-même et du coup ça c'est un coût aussi que je trouve faramineux, mais bon. J'ai pas de notion, j'ai découvert qu'un store ça coûtait 3000 euros par exemple. Mmh. Voilà, donc le financement va me servir à financer tout ça.
Mais alors, toi qui es une structure privée, pourquoi avoir fait appel à un financement participatif, dis donc ? Je trouve ça vraiment abusé. Hein.
Non, mais c'est qu'il y a plusieurs personnes qui disaient que c'était pas clair si j'étais une association ou pas. Mmh. Et parce que le projet a effectivement... la gueule d'un projet associatif, clairement, ça aurait pu être un projet associatif. Ça ne l'est pas parce que moi, j'ai fait 10 ans d'associatif et je vois comment ça fonctionne. C'est souvent les mêmes qui se mouillent et qui font le taf pour les autres. J'avais pas envie de faire une coquille vide, de me taper les conseils d'administration, les assemblées générales, les prête-noms pour servir de secrétaire, de trésorier, de président, de ci, de mi, enfin... J'adore le milieu associatif, mais là pour le bar je le sentais pas du tout. Mmh. Et puis après 10 ans à faire partie des associations fondées par d'autres, j'avais envie de faire mon projet aussi. Après oui c'est privé, mais ça n'empêche pas que moi c'est quelque chose qui me permet de me réinsérer après 10 ans on va dire de vie alternative. Mmh. Ça me permet de sortir du RSA, ça me permet de peut-être d'embaucher aussi d'autres gens tout en gardant, enfin en restant fidèle à mes valeurs et en essayant d'être utile à d'autres, quoi, en faisant bosser les copains, notamment les paysans du coin, parce que tous mes fournisseurs à peu de choses près ils viennent de Lozère et puis je les connais tous, quoi. Mmh. Individuellement, et ça me tient vachement à cœur, donc même si c'est pas une structure associative, le projet est bien local et solidaire et c'est pour ça qu'il y a un financement participatif. Ben pour moi ça coule de source en fait, parce que ça permet aux gens de s'impliquer dedans et puis de faire que ça devient un projet collectif.
Ouais, d'ailleurs, voilà. Pour celles et ceux qui voudraient participer, il y a toujours des contreparties. Toi, tu es parti sur l'idée de « passe-moi le », puis quelque chose derrière. Explique-nous tout.
Ouais, bah, l'idée, c'est ça. C'est que tu reçois une contrepartie à ta contribution, donc ça soit proportionnellement à ce que tu donnes. Il y a des gens qui choisissent de donner sans recevoir de contrepartie, mais en gros, ils vont tous quand même avoir l'autocollant. Ça, c'est sûr. Après, ça va de je paye un apéro à offrir un repas aux gamins, aux mineurs du foyer, là, pour mineurs à Mende, avec lequel d'ailleurs on devrait développer un partenariat, si tout va bien, à partir de cet automne, une fois que la saison sera passée, d'avoir les jeunes qui viennent un week-end sur deux et puis qu'on essaie de faire des activités ensemble, que ce soit selon les âges, effectivement, des activités cuisine, des documentaires, aller voir des producteurs, lire des BD ensemble, enfin faire des choses, quoi. Et après, bah, je me suis un peu éclatée, j'ai essayé d'être créative, donc il y a des contributions où tu peux me donner un ingrédient et moi j'invente la recette qui va avec, c'est toi qui choisis le titre, c'est moi qui me fais chier à faire le plat. Voilà. Bon, après, il faut aller découvrir toutes les contreparties disponibles sur le site.
zest.coop.fr et vous tapez
Et je précise aussi, Zest, c'est la plateforme de la Nef, oui. Donc, qui est une banque éthique, la banque qui soutient les monnaies locales en France. Et voilà, si une banque éthique, ça existe encore, ça existe malgré tout. Ouais. Et c'est eux qui ont cette plateforme-là et chaque euro donné est perçu par le porteur de projet. Contrairement à Ulule ou KissKissBank qui ont des partenariats avec des Leclerc, des Hyper U, des Lidl et compagnie, et si tu touches pas les 100% de la somme, et ben tu touches rien. Voilà.
C'est sûr. Alors, Place de la Mairie, ça va revivre, mais à fond cet été. Pourquoi ? Parce que juste à côté de chez toi, il va y avoir la nouvelle dimension. Est-ce que vous avez prévu de faire des choses ensemble ?
Pas particulièrement pour l'instant, mais ça me semble évident que on a des objectifs communs, donc après avoir les modalités que ça prendra, mais pour l'instant on n'en a pas encore discuté.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, alors je me rends pas compte encore du lieu forcément, puisqu'il n'ouvrira que mi-juillet, mais des concerts ou des choses comme ça, est-ce que tu as envie d'aller dans cette voie-là, ou alors tu laisses ça à d'autres, parce que c'est du boulot d'organiser un concert aussi?
Il y a ça, je pense qu'avec, j'ai envie de dire les Caraïbes, parce que je ne sais toujours pas comment ils vont s'appeler, c'est le suspense. Ouais. Si c'est la Madeleine, si c'est le Caboulot, ou que sais-je, ils n'arrêtent pas de changer d'avis. Bref, c'est le suspense, mais avec les voisins d'en face, je pense que oui, on va finir par faire des événements. Après, il y a Scène Croisée qui m'a contacté aussi, donc dans l'idée, si je peux héberger des petits événements, mais avec plaisir, le lieu est petit, après j'ai une grande terrasse.
C'est sûr qu'elle va...
Un peu comme chez moi, tu vois. J'ai une toute petite maison, mais j'ai un très grand jardin.
zest.coop.fr/snackbibliobar. Je mets le lien évidemment sur notre site. Allez-y, auditeurs, auditrices. Si le projet vous intéresse, vous pouvez donner même 5 euros à peine. Il n'y a pas de petite contribution, n'est-ce pas?
Ouais, et il y a surtout plein de contributeurs avec plein de petites contributions, et ça c'est trop cool, parce que bah, ça fait vraiment une communauté autour du projet, quoi. Ça prouve que même si t'es pas bien riche, bah, tu peux quand même t'impliquer dans des projets locaux. Ça me tient vachement à cœur.
Ça, c'est sûr. On va de nouveau se perdre Place de la Mairie, mais se perdre dans la joie et dans la bonne humeur entre le marché qui y retourne, la nouvelle dimension. Toi, les Caraïbes, qu'on sait pas encore comment ça va s'appeler, mais ça va s'appeler, c'est sûr. Ça va
Il y a faire un magasin de tatouage aussi qui va ouvrir.
Et un magasin de tatouage, la vie est quand même bien foutue et il va faire bon vivre à Florac dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Cynthiana.
Merci à toi, merci à Bartas.
À bientôt, à l'embuscade. Donc, ciao. Allez, dans un instant, on part au festival Dolt. Et oui, c'était ce week-end. On écoute d'abord Maria Andrade, Les mots d'amour, c'est beau.
Le temps peut-être, serment déchus et lettres, rêves déçus passés, il est des phrases damnées qui m'écorchent la bouche, me froissent les pupilles, me hérissent ses louches, les ailes et les papillons, les avaries du cœur, c'était tous les jours, j'ai passé l'heure au temps. Sans détour, au bas j'ai quelque peu de mal à sein des taux. Au bal, j'ai quelque peu de mal avec les mots d'amour. La vie, le temps peut-être, serment déchus et lettres, rêves déçus passés. Il est des phrases tannées qui m'écorchent la bouche, me froissent les pupilles, me hérissent ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur. C'était tous les jours, j'ai passé l'heure autant le dire sans détour. Au bal, j'ai quelque peu de mal avec les mots d'amour.
Démarre 18e édition d'un festival hors norme, le festival Dolt, organisé par le Root Boy Crew avec évidemment à la déco et à la scénographie, Hangar au Gorille. Après un plateau avec nos amis de 48FM le vendredi midi, on y était avec Bartas. Plus de 4 heures de rush, c'est qu'il s'en passe des choses là-haut. Plongez donc dans ce joyeux bordel, propos sérieux, concerts magiques, spectacles en couleurs et beaucoup de rire était au rendez-vous. Holtopia, la dictature du bonheur sous l'égide de Dimitrix, bienvenue sous la bannière de cette 18e édition. Festival Dolt, 18e, action.
Mais qu'est-ce que vous fichez là avec votre tête de taille? C'est pas possible d'être aussi mâche!
Le bonheur se décide, le bonheur doit être individuel et collectif. Si tu veux faire la nouba, tu la fais. Si tu veux pas, tu la fais pas. D'accord? On va pas prendre lui pour décider.
Non!
D'abord, collectivement, on peut faire quand même un petit peu mieux.
Salut les copains.
Bonjour.
Salut.
Est-ce que vous pensez que vous pouvez passer au-dessus du son qui passe?
Alors, c'est-à-dire?
Donc je pose la question parce que je suis avec des amis de longue date de Radio Bartas, Lou et Clément, dans un espèce de, je sais pas, d'environnement absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez passer au-delà du son qui passe? Voilà, est-ce que vous pouvez faire plus de bruit?
Eh bien, écoutez, mon petit Ben, ça dépend. Je répondrai en deux phases.
Moi, clairement. clairement, je peux pas ce soir. Voilà, donc déjà, peut-être avec un micro, on va m'entendre. Ça me fait plaisir de parler à ton micro, parce que peut-être on va m'entendre. Voilà, mais passer au-dessus du son de la zig, impossible pour moi ce soir. Je ne peux que aller danser sur la zig, quoi. Mais Clément, je pense qu'il peut passer au-dessus du son classique.
Non, bon, alors, on va passer direct à la deuxième phase, parce que en premier lieu, vous interrogez des personnes qui sont déjà éclatées. Et donc, pour cette deuxième phase...
La question, c'est d'être d'accord avec soi-même, c'est ça que je veux dire.
De la compagnie Todo Controlado, auteur, interprète du spectacle Tapa du Léon, Grégoire Gesselman.
Grégoire, salut.
Salut.
Donc on s'est vu ce matin au plateau.
On s'est vu ce matin, oui.
C'était ta grande première là aujourd'hui, comment ça s'est passé?
Eh ben, avec tous les petits problèmes techniques de l'avant-première, j'imagine. On a eu un mille pattes qui a pas du tout fonctionné. Mais alors pas du tout. Il nous a jamais autant fait des bugs à ce point-là. Mais bon, on s'adapte. Bien stressant.
Pourquoi il a pas fonctionné?
Eh ben, on n'a pas compris.
Ah, vous savez pas?
Non. Non, on n'a vraiment pas compris. La voiture, on n'a même pas compris comment la tête a pu se détacher du corps. Ça, c'était la première fois que c'est arrivé. Et après, la manette buggée, alors qu'on a changé les piles, on a tout rechargé. On n'a pas compris.
C'est une première. Tu te dis, alors du coup, vous allez repartir avec le même mille pattes, ou alors ce mille pattes là, il va falloir le...
On a une deuxième voiture de rechange. Peut-être qu'on va envisager la voiture de rechange.
Est-ce que c'est pas casse-gueule un peu de choisir des trucs comme ça où vous n'êtes pas sûr à 100%? Est-ce que c'est un choix osé ou alors...
C'est un peu casse-gueule, mais c'est un choix un peu osé. Je crois que je trouve ça drôle au final de jouer avec ce qui se passe sur le moment. Enfin, c'est un peu ça le spectacle vivant aussi, je trouve. Et au final, des retours qu'on a eu, il y a plein de personnes qui nous ont dit « Mais gardez-le ce mille pattes qui marche pas
!» En fait, c'est le truc qui me fait halte, que j'adore dans un spectacle.
Ouais.
Tu vois, il y a eu beaucoup de rires d'enfants, il y avait beaucoup d'enfants devant. Est-ce que tu crois qu'ils ont compris?
Je pense pas qu'ils ont tout compris. Non. Et on avait pensé à adapter la version du spectacle à partir de 6 ans. De proposer et de voir peut-être à penser une version pour les enfants plus petits, que ce soit moins... Comment, avec moins de texte, sûrement moins d'informations, de choses qu'ils pourront pas comprendre.
Pour une première, comment tu t'es senti? Mal ou bien?
Entre les deux. Pas si mal en tout cas.
Un plateau radio, c'est aussi du spectacle vivant, et je dois avouer que j'ai eu un petit bug en présentant Marie-Ange Patrice à la régie plateau. J'ai dit, mais ça consiste en... Elle l'a pris avec beaucoup d'humour, et je la remercie, et finalement, ça restera un excellent souvenir.
Ah tiens, il y a ça qui arrive.
On ne dit pas ça.
Soit.
C'est évidemment une référence au plateau qu'on a eu tout
mais
à l'heure.
Mais bien sûr.
Désolé, mais vraiment.
Toujours avec beaucoup d'amour, il n'y a pas de problème.
Ah oui, et d'humour d'ailleurs.
Mais naturellement.
Toi, t'as dû te mettre en PLS derrière sur le spectacle. Non?
Pourquoi?
Je sais pas, un truc qui marche pas.
C'est du spectacle vivant, sinon on ferait du cinéma.
C'est la même réponse.
Et c'est la première fois qu'on bosse ensemble.
Alors j'ai une question à vous poser parce que évidemment je marche tout le temps dans le festival etc. C'est Bal. Ces balles qui arrivent dans tous les sens, elles ont énormément de signification pour plein de gens. Donc il y a combien de balles dans le spectacle qui arrivent? Alors on va pas dire le chiffre, mais une centaine. Qu'est-ce qu'elles représentent? Alors sans dévoiler, mais pour vous, quand vous avez créé et écrit le spectacle.
Waouh, pour nous à la base, c'est une molécule de néonicotinoïdes. Oui, voilà. C'est-à-dire un insecticide qui est présent dans la plupart de nos champs.
Voilà. C'est ça. Et à la base de la base, pour s'appuyer sur des faits scientifiques qui sont réels, on est parti de la molécule du glyphosate, qui a une forme de cristal, de petites billes blanches, microscope. Et à la base, on était parti sur le glyphosate, sauf que le glyphosate, c'est pas ce qui tue le plus d'insectes, sauf que c'est un herbicide. Donc c'est pas ce qui tue le plus d'insectes. Et ce qui tue le plus d'insectes, c'est les néonicotinoïdes. Du coup, on l'a plus ou moins adapté. Et on l'a. C'est plus scientifiquement vrai. Du coup, maintenant, c'est des balles jaunes. Mais elles se voient mieux.
Comment ça se passe, toi, à partir du moment où tu commences à les balancer sur scène? Comment, dans quel état d'esprit t'es, en sachant que il y a déjà eu le truc du mille pattes qui est machin, enfin comment, dans quel état d'esprit tu te trouves, toi?
De manière générale, je trouve que c'est assez violent de balancer des balles sur son pote. Donc c'est déjà quelque chose qui crispe un peu de l'intérieur, tu le fais pas ça en mode youhou, allez c'est parti quoi. Mais après c'est aussi le but, je pense que c'est pas une personne qui balance des pesticides, elle fait pas le hyper joyeusement, donc c'est aussi se mettre dans la peau du truc. Et après, pour l'instant, la région, on a choisi qu'elle soit en neutre, on verra comment elle évolue après. Mais voilà, c'est à travailler, c'est un personnage qui est à travailler. Moi, de l'intérieur, ça me resserre un peu tous les intestins, bien, voilà.
Pourquoi pas de micro et pas de
pas amplifié, ça c'est un choix. Enfin, je trouve que moi je fais du spectacle vivant et je trouve ça plus chouette de faire ça directement par voix sans être amplifié. Et aussi à la base c'est plutôt un spectacle qui est fait pour des, c'est plus intimiste. Et là cet après-midi il y a eu beaucoup de gens. C'était, je pensais pas qu'il y aurait autant de gens et voilà.
La propulsion du texte qui est importante, etc. Du coup, a pris un tout petit peu moins d'ampleur par rapport à ce qu'elle pourrait prendre sur le message. Est-ce que c'est une déception pour toi sans...
Oui, c'est un peu une déception. Enfin, je me dis que du coup, ceux qui sont devant en ont plus profité que les autres. Et en même temps, je me dis que ceux qui étaient assis sur les balcons tout au fond, c'était aussi leur choix.
Vous avez payé moins cher, les cons.
Ouais, et puis c'est aussi une expérience pour que la prochaine fois, on sait qu'il faut adapter au public, enfin, ouais. Rapprocher le public, enfin, c'est aussi pour faire mieux la prochaine fois.
Et le truc, par contre, tout le coup de la marionnette qui débarque à un moment, cette danse, en fait, au final, avec elle, qui est magique, il y a un côté poétique et tragique qui a été voulu, en fait. Dans
complètement. Cette scène, on l'a appelée « Dansons sur ce printemps qui ne reviendra pas ».
Et là, on va aller danser sur cet été qui va arriver.
Ouais, exactement.
Exact. Merci de m'avoir donné du temps, enfin, et pas à moi, à Radio Barthes.
Merci à toi.
Et voilà pour cette première partie du Festival d'Olt. La deuxième partie, ce sera mercredi matin. La troisième partie sera la semaine prochaine, pas lundi, mais sans doute mercredi. Pourquoi ? Parce que j'ai pris vraiment beaucoup trop de son. Mais bon, quand il y a des gens intéressants, c'est comme ça. Là, c'était la compagnie Todo Controlado. Où est passé Léon ? Vous pouvez les retrouver sur leur site internet. Où est passé Léon ? Je mets le lien dans un instant sur notre site. Et bien, c'est la fin de cette matinale. Déjà, on se retrouve mercredi. C'est bien fait. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien. Restez sur Barthas 107 FM ou RadioBarthas.net. On se quitte avec la grande Maria Andrade, Planète Afropunk. À mercredi. Ciao. Mm-hmm.
Ila Belém, a Mila Ciudadana, e Criana Nazaré. A Mida Antuchon de Praia, essa história bem muda o mundo, então co brinca com minha voz. Um bem no calpe que note, e espírito é muito mais forte.